RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur RFI et sur France 24. Bonjour Véronique Rigolet.
Bonjour.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Alors, vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Vous avez commencé d'abord par des années de militantisme vert au sein de Greenpeace. Vous avez ensuite franchi le Rubicon pour vous lancer en politique au sein des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts. Alors, il y a eu quelques belles années qui vous ont permis notamment de devenir député européen. Puis est venu le temps des divisions, des déceptions, des rancœurs avec un parti éparpillé façon puzzle et qui a fini par abandonner le navire Hollande. Pour tenter de remettre de l'ordre dans cette frêle embarcation, quoi de mieux qu'une primaire ? Vous êtes d'abord en faveur d'une primaire de toute la gauche, puis finalement une primaire écolo. Et plutôt que la favorite Cécile Duflot, c'est l'outsider Yannick Jadot qui est sorti du chapeau. Alors vous êtes crédité de 1 à 2% dans les suffrages et vous avez eu le mérite ou l'honnêteté de dire que vous pensez que la France ne pourra pas avoir de président vert.
Bonsoir Yannick Jadot. Vous êtes le seul candidat à l'Élysée à avoir avoué ne pas espérer être président. Vos vœux sont peut-être en passe d'être
exaucés. C'est pas comme ça que je l'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la réalité politique de mon mouvement politique, la réalité politique, ne ferait qu'il n'y aurait probablement pas de président écologiste en 2017. Mais on voit que cette réalité politique est potentiellement en train de changer. Il y a 6 mois, on nous prédisait Le Pen, Sarkozy, Bayrou, Hollande, Mélenchon. Certains sont déjà quittés le paysage politique de cette élection. Il y a 6 mois, on me disait « Mais pourquoi vous êtes candidat puisqu'on ne parlera pas d'écologie ? On ne parlera que d'identité, de sécurité, d'islam. » On voit qu'à gauche est sorti du chapeau de la primaire socialiste un candidat qui a gagné très largement sur un projet écologiste, que Jean-Luc Mélenchon parle beaucoup aussi de protection de l'environnement. Donc il y a potentiellement une victoire autour d'un pôle écolo-social européen démocratique. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je discute avec d'autres candidats pour voir s'il y a l'espace d'une grande aventure politique.
De ce pôle permettra pas votre candidature. Vous allez bientôt y renoncer.
Non, ça dépendra de l'accord qui sera passé ou de l'accord qui ne sera pas passé.
Bon, de fait, moi, vous ne serez pas président, ça au moins.
Ma responsabilité et le mandat que je considère avoir reçu et de la primaire écologiste, et nous avons consulté tous ceux qui ont voté, c'est bien au-delà d'Europe Écologie Les Verts, tous ceux qui ont voté pour savoir si on organisait des discussions avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Mon mandat, c'est que le prochain quinquennat soit écolo, social et européen. Alors s'il y a cette possibilité d'une grande aventure, si on a la possibilité de dépasser les égos, de déborder les appareils politiques et qu'on lance cette grande dynamique, je crois qu'elle peut être gagnante. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité historique aujourd'hui.
Alors vous êtes encore en pleine négociation avec Benoît Hamon. On sait que vous vous êtes vu très récemment, que les négociations continuent. On va écouter Benoît Hamon ce mardi sur Europe 1. Il se déclare plutôt optimiste. Benoît Hamon.
On ne ferait pas un accord qui, au bout du compte, irait piocher quelques mesures dans le programme de Yannick Jadot juste pour plaire aux Verts. Je veux incarner un nouveau paradigme qui fait converger ce qu'est la tradition de la gauche en matière de justice sociale et de solidarité et ce qu'est la tradition de l'écologie politique.
Cet accord avec les Verts, il sera bouclé en fin de semaine, oui ou non, simplement, et après on avance.
Je suis confiant et optimiste.
Confiant et optimiste, Benoît Hamon, vous aussi, ce sera bouclé en fin de semaine et soumis au vote.
Ce sera bouclé ou pas ? Mais ce sera cette semaine. La semaine prochaine, vous le savez, les élus commenceront à recevoir les formulaires de parrainage. Moi, je ne souhaite pas, de toute façon, en plus, vous voyez, l'ambiance commence à tourner vinaigre. On a l'impression qu'on feuilletonne cette histoire d'un
tourner
rapprochement.
Tourner vinaigre, carrément.
Non, tourner vinaigre au sens de la perception qu'en ont les Françaises et les Français, que ça traîne, alors que objectivement, Notre objectif, il est de construire un contrat pour 5 ans. C'est pas simple. Il suffit pas de dire nous voulons sortir du nucléaire. Il suffit pas de dire nous voulons protéger la santé et supprimer les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir comment s'organisent à la fois les réformes institutionnelles, la création d'emplois. Qu'est-ce qu'on fait dans les 100 jours autour de la sortie du nucléaire, du développement des énergies renouvelables.
Dans vos discussions, vous êtes donc aussi précis que ça avec Benoît Hamon.
Il faut être précis.
Ouais. Mais eux ne le sont pas. Si vous laissez sous-entendre qu'ils sont flous.
Moi, il n'est pas question que je passe un accord qui ne serait pas clair. Vous savez, on a eu l'expérience avec François Hollande d'un accord d'un personnage candidat à l'élection présidentielle qui nous a dit on va réduire fortement la part du nucléaire, on va fermer Fessenheim, on va développer les énergies renouvelables, on va réduire les pesticides, on fera la proportionnelle, on fera le vote des résidents étrangers. Fin du quinquennat, rien. Nada, walou. Donc on ne va pas repartir sur un accord flou qui n'aurait pas et la clarté des objectifs et la cohérence de la mise en œuvre. Pour ma part, il est clair que si on n'a pas un programme clair de mandature, il n'y aura pas d'accord. Moi, ma légitimité, mon mandat, c'est la clarté et la cohérence du projet écologiste. Je suis prêt à prendre mes responsabilités dans ce moment historique où la France peut basculer vers le pire, Marine Le Pen. On a le rendez-vous avec l'histoire de France autour d'une espérance écologique, sociale, européenne. Mais ça nécessite qu'on sorte de la cour d'école, qu'on sorte d'une sorte de jeu un peu ridicule entre les égaux, les machins, le truc de réaffirmation, voilà.
Mais vous pensez que vous êtes encore dans la cour d'école, là, dans vos discussions avec Benoît Hamon?
Non,
vous avez déjà un peu dépassé,
en tout cas, l'espace. Mélenchon, machin, les gens se parlent par médias interposés, ils se répondent par médias interposés, les lieutenants, parfois sont à la limite de l'insulte du camp d'en face. Les Françaises et les Français ne veulent pas ça. Les Françaises et les Français veulent savoir si la gauche est soit la gauche la plus bête du monde, ou soit c'est une gauche qui est capable de se rassembler, de porter un projet, de gagner et de transformer en mieux la vie des Françaises et des Français sur la santé. Il y avait ce matin l'audition de la Mutualité française où les candidats sont venus. C'est essentiel, la santé. C'est de savoir si on crée des emplois sur l'ensemble de nos territoires, de savoir si on change nos institutions pour que notre démocratie respire, si on refonde l'Europe pour éviter les Brexit et redonner de l'espérance dans un projet de civilisation. C'est ça, le sujet.
Quand vous dites « s'il n'y a pas d'accord, je prendrai mes responsabilités », en clair, est-ce que ça veut dire, part, que vous avez vos 500 parrainages et que, dans ce cas-là, vous irez à la présidentielle?
Non, mais je suis candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Demain, je suis candidat à l'élection présidentielle. S'il n'y a pas d'accord avec Benoît Hamon, si on reste sur un truc qui va plus construire de la déception, parce que ça manquera de rigueur et de cohérence, que d'espérance et de clarté. Si c'est ça, mais évidemment, il n'y aura
pas
de
grande aventure. Et vous avez les parrainages, vous les avez.
J'ai les parrainages aujourd'hui. Je n'ai pas de problème de parrainage. Ma responsabilité, en revanche, c'est de dire que si cette grande aventure est possible, il faut qu'on sorte de nos cases. C'est trop facile de dire « je suis dans ma case, moi, 25 ans d'écologie, Benoît Hamon, un an d'écologie, Jean-Luc Mélenchon, un peu plus d'années d'écologie. » Et c'est quoi? Je vais dire « moi, je suis écolo depuis bien plus longtemps, moi, j'ai construit des victoires écologiques, moi, j'ai négocié avec des entreprises, avec des gouvernements, pour obtenir des victoires de l'écologie. Et je vais pas leur faire le procès du passé. » Moi, j'ai toujours dit, comme Danny Cohn-Bendit disait quand on a fondé Europe Écologie en 2009, je ne te demande pas d'où tu viens, je te demande où tu veux aller avec nous. C'est ça, le sujet. Mais il faut, pour ça, déborder les partis politiques, que Benoît Hamon ne soit pas enfermé, piégé par le PS.
Il l'est, il l'est dans les discussions que vous avez avec lui. Vous
j'ai le sens. Vous voyez, regardez encore Stéphane Le Foll ce matin.
Je pense que
aujourd'hui, il y a toute une série de responsables du Parti Socialiste qui ne veulent pas d'accord avec les écologistes, qui veulent piéger Benoît Hamon dans la vieille machine socialiste en lui disant « c'est bien, t'as gagné, mais maintenant, faut que tu redeviennes sérieux ». Si Benoît Hamon fait ça, je crois pas qu'il veut faire ça. Mais si à la fin du fin, la proposition d'accord que nous, sur laquelle nous travaillons n'est pas satisfaisante, c'est qu'il n'aura pas été au bout de la logique qu'il a défendue pendant la primaire. Je le sais sincère.
Est-ce que vous pensez que François Hollande ou des proches de lui, vous avez parlé de Stéphane Le Foll, sont justement derrière ces manœuvres pour...
Mais bien sûr. Mais vous voyez bien qu'ils veulent, ils veulent sa défaite. Moi, je pense qu'il y a une série
François Hollande.
Mais je pense qu'il y a une série de responsables socialistes aujourd'hui qui ne digèrent pas le fait que Benoît Hamon ait gagné de cette manière la primaire sur une ligne politique en rupture par rapport avec celle du quinquennat. Et sur une ligne politique en rupture par rapport à la direction de l'appareil socialiste, et avec une ligne politique qui reprend largement des idées écologistes. Et c'est tant mieux, c'est la bonne nouvelle de ce paysage politique en plein bouleversement. Et donc il y en a qui veulent lui faire payer cette ligne politique-là. Est-ce que Benoît Hamon, et je crois qu'il a cette lucidité-là, il s'extrait de ce parti socialiste un peu vieille 20e siècle, pour être gentil. Est-ce qu'il s'extrait de ça? Et il est l'un des artisans d'une construction extraordinaire qui sera pas socialiste, qui sera pas écologiste, qui sera pas mélenchoniste, qui sera pas communiste, qui sera pas centriste, qui sera le projet de l'espérance cette élection. C'est ça que moi je veux.
Tout dépend de Benoît Hamon. Est-ce que vous pensez qu'il aura
tout dépend aussi de
ce courage-là, oui.
Tout dépend aussi de Benoît Hamon. Ça dépend aussi de Jean-Luc Mélenchon. Ça dépend de Pierre Laurent. Ça dépend d'une partie des électeurs qui sont aujourd'hui chez Macron et qui sont aujourd'hui chez Macron parce qu'ils se disent Macron, il va changer les institutions.
On va y venir à Emmanuel.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attente extraordinaire de ce nouveau souffle. Mais ce nouveau souffle, ça n'est certainement pas un accord Parti Socialiste, ELV, PC. Ça, les gens n'en veulent plus. Ils veulent de la dynamique qui déborde les appareils politiques.
Alors justement, vous l'évoquiez, hein, le gros caillou dans la chaussure de l'Union des Gauches, c'est bien sûr cette fin de non-recevoir de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. C'était il y a quelques jours, il a balayé d'un revers de main tout espoir de rassemblement. On l'écoute.
Donc je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard. Je le dis très clairement. Et je dis aussi qu'il faut donc rompre politiquement. Si Benoît Hamon est prêt à une politique de rupture avec le passé et avec les gens qui sont encore là, il est le bienvenu.
Voilà. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui doivent se voir en fin de semaine. Vous œuvrez vous-même en faveur d'un rassemblement. Qu'est-ce qui peut encore changer la donne? Le deadline, c'est
la
demain,
responsabilité, hein. Le sens de
la responsabilité. Mais la responsabilité, ça vient en quelques jours.
Je n'en vois pas d'autre. Diviser, comme nous sommes divisés aujourd'hui, c'est l'échec garanti. Rassembler, c'est potentiellement la victoire. Est-ce que on peut chacun, les uns et les autres,
ça c'est du bon sens, c'est de la combativité. Mais qu'est-ce qui peut changer dans les prochaines heures, là, maintenant?
Mais
la combativité, elle est nécessaire. Est-ce qu'elle est suffisante dans
si nous arrivons,
dans ce deadline de fin de semaine?
Si nous arrivons avec Benoît Hamon à trouver un bon accord,
nous allons
mettre évidemment public cet accord. Évidemment, il va être transparent et public. Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même dit tous les matins, il y a une urgence écologique absolue, une urgence sociale absolue, une urgence démocratique absolue. Il va dire, il y a une urgence qui est tellement absolue que finalement, je regarde pas les conditions qui rendent possible un rassemblement. Je dis pas que c'est simple. Si on était tous pareils, on serait dans le même mouvement politique. Je dis pas que c'est simple. Moi, j'ai des différents sérieux avec Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe ou sur la géopolitique. On a eu l'occasion d'en parler. Mais si on n'est pas capable de se parler là-dessus, si on n'est pas capable de trouver une clarification sur ces sujets européens notamment, mais si on ne se donne pas cet espace-là, on n'est pas à la hauteur de l'histoire qu'on prétend incarner, l'histoire qu'on prétend transformer. C'est ça le sujet.
Sur l'écologie proprement dite, vous êtes beaucoup plus proche d'un Mélenchon. Pourquoi ne pas avoir entamé des négociations avec lui plutôt?
Mais parce que sur l'environnement, aujourd'hui, le sujet, il n'est pas de savoir si je suis plus proche d'un Mélenchon ou d'un Hamon. Après, il faut vérifier la cohérence du projet. Je le dis régulièrement, si les discours de campagne électorale, les discours qui sont prononcés dans les grandes conférences internationales sur le climat, tout ça, avaient dû sauver la planète, notre santé et les espèces vivantes, ce serait déjà fait. Je ne serais pas là devant vous. Je veux dire, vous vous souvenez, Chirac, la maison brûle, nous regardons ailleurs. Sarkozy et le Grenelle de l'environnement. Hollande et la COP21. Ils n'ont rien fait derrière ces grands discours. La réalité, c'est qu'ils n'ont rien fait derrière ces grands discours. Donc moi, je ne me satisfais pas d'un discours. Je veux qu'on regarde un programme précis qui donne des engagements datés, des engagements chiffrés. Sinon, c'est de la blague.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon tient absolument à être candidat à
bien
cette présidentielle et à battre le Parti Socialiste?
Mais bien
et
sûr,
c'est là le problème.
Mais bien sûr qu'il veut être absolument candidat.
Et donc, c'est impossible.
Mais reconnaissons à Jean-Luc Mélenchon une détermination, un parcours.
Mais vous l'imaginez être votre candidat?
Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation. La question, elle est toujours secondaire. Ouais. Si on n'a pas de projet commun... Si on n'a pas de projet commun, c'est même pas la peine de parler de ralliement, de retrait de candidature. Soit c'est une dynamique collective autour d'un projet commun, soit il n'y a rien. Si c'est des arrangements
de personnes...
C'est
la défaite assurée.
Mais c'est aussi la défaite assurée. Est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que une personne, tout candidat qu'il est, avec l'expérience et sa détermination, est-ce qu'une personne dans ce pays peut mettre un droit de veto sur l'espérance d'un futur désirable? Eh bien moi, je dis que non. Ce sera à un moment donné aussi la responsabilité des électrices et des électeurs de savoir qui veut le rassemblement. Qui veut la victoire? Qui veut transformer la société? Ou qui est dans un jeu de posture?
Le futur désirable, hein, c'est la phrase, c'est le mantra de Benoît Hamon. Vous parlez déjà comme lui, c'est déjà
disant,
un signe de
En le disant, je me suis aperçu
converti,
que...
Vous êtes converti.
Mais non,
sur quel autre dossier,
voilà,
ça a avancé?
Vous savez, sur les dossiers, franchement, ouais. Moi, les écologistes sont pour le logiciel libre. Si je devais financer ma campagne avec les idées qui sont reprises ici ou là, j'aurais un budget qui exploserait le demi-plafond qui nous est accordé. Donc
Mais sur les sujets précis, il y a quand même des sujets de désaccord. Il y a la sortie sur le nucléaire et la proportionnelle.
Il y a quand même
des désaccords. Est-ce que là-dessus,
il faut avancer?
On n'a pas bouclé.
Est-ce qu'il y a déjà des avancées?
Mais parce que... Oui, ça avance.
Que vous disiez, il faut éviter les compromis foireux comme on les a connus au cours du quinquennat passé,
voilà.
Sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Est-ce que sur Notre-Dame-des-Landes...
Sur Notre-Dame-des-Landes, ça paraît acquis que, et il l'a dit plusieurs fois, Benoît Hamon est pour l'arrêt de ce projet. On discute du Lyon-Turin, par exemple. Autre projet d'une gabegie financière extraordinaire. On est autour de 25-30 milliards. Tout le monde considère que c'est aberrant de faire ce projet. Est-ce qu'on est collectivement capable, y compris de dire à quelques élus socialistes de Rhône-Alpes, que leur projet sur lequel ils sont accrochés depuis des années et des années, on va réviser sérieusement la copie ou supprimer le projet? On est sur la sortie du nucléaire. Regardez, souvenez-vous, François Hollande, 50% d'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2025. Ça veut dire la fermeture de 23-24 réacteurs. Il n'a même pas été capable de fermer Fessenheim. Il n'a même pas été capable de tenir cette petite promesse d'une centrale qui est en risque absolu.
Est plus crédible dans ce qu'il vous promet.
C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Parce que si on veut, comme l'Allemagne, comme tous les autres pays qui aujourd'hui sont dynamiques économiquement, si on veut créer des emplois, si on veut être plus autonome énergétiquement, si on veut économiser l'énergie, il faut investir sur les énergies renouvelables, pas sur le nucléaire. Sinon, mais pour ça, il ne faut pas simplement dire « oui, un jour, on sortira du nucléaire ». Il faut dire « à telle date, on sera sorti du nucléaire, à telle date, on ferme le dernier ». Et comment on organise la transition avec les salariés et comment surtout on crée des emplois sur les énergies renouvelables, sur tous les territoires, sans le risque nucléaire, sans le réchauffement climatique.
Le gros point de divergence, c'est la proportionnelle intégrale que vous continuez
là-dessus,
à réclamer au sein de
Benoît Hamon. Là-dessus, on avance.
Bah, c'est soit intégrale, soit pas intégrale. Donc c'est quand même,
Oui, mais si vous voulez, par exemple, comment vous qualifiez le scrutin des régionales dans notre pays? C'est de la proportionnelle à deux tours.
Oui.
Les Françaises et les Français connaissent ce scrutin. Moi, j'aime
ça
plutôt le scrutin à l'allemande. Je le trouve plus efficace. Mais en même temps, c'est un tel bazar, nos modes de scrutin dans notre pays, que le scrutin proportionnel des régionales, il est connu des Français. Adoptons le même système. C'est-à-dire qu'en fait, on a des candidats, le scrutin régional, on a des candidats par département. Et il y a une prime majoritaire à l'échelle de la région. Eh bien, faisons la même chose. Par exemple à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on aurait des candidats ancrés dans les régions, donc les Français les connaissent, dans la région, mais il y a une prime majoritaire à l'échelle nationale pour éviter le bazar d'un Parlement non gérable.
Il y a aussi des accords dont on parle, hein, bien sûr, c'est pour les prochaines législatives. Hollande, à l'époque, grâce, entre guillemets, à Martine Aubry, vous avez réservé une soixantaine de circonscriptions. Pas toutes gagnables, bien entendu. Vous en êtes à combien
rapidement.
Dans vos négociations
On a assez peu avancé sur la question des législatives.
Il n'y a pas de chiffrage.
Parce que, je vais vous dire, pourquoi on avance peu? Parce que, moi j'ai toujours dit, je ne serai pas le candidat d'un accord vert PS de circonscription, c'est le projet. Après, il est normal, quand on veut mettre en œuvre un programme présidentiel, d'avoir une majorité parlementaire. Voilà. Discuter des comptes.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour sur le plateau de Mardi Politique sur RFI et France 24 avec Yannick Jadot qui est toujours candidat à la présidentielle.
Absolument, pour les écologistes.
Voilà, et avec Véronique Rigolet de RFI. Alors on va parler d'Emmanuel Macron, on l'a abordé brièvement en première partie, avec cette image, Emmanuel Macron reçu ce mardi au 10 Downing Street à Londres par le Premier ministre britannique Theresa May. Un commentaire.
Écoutez, je ne sais pas ce qui s'y est dit. C'est toujours bien qu'un candidat qui veut diriger notre pays rencontre d'autres dirigeants européens. S'il y est allé pour dire « je veux à la fois respecter la volonté du peuple britannique et pour moi, candidat à l'élection présidentielle française, ça veut dire que un Brexit dur, ce ne sera pas le passeport financier pour la City. Ce sera effectivement un Brexit dur. » C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'avantages, ni liés au libre-échange, ni liés aux opérations de la City sur le marché européen, et notamment avec l'euro. S'il y est allé pour dire ça, c'est très bien.
Vous n'en doutez pas.
Il ne fait pas de la com' politique. Non, c'est pas...
Mais il est en campagne électorale.
Voilà.
La campagne électorale, c'est de la com' politique. Il n'est plus aux affaires. Donc,
il a voulu être reçu par Angela Merkel à Berlin, ça n'a pas marché.
Très bien. Mais encore une fois, si moi ça va, s'il a eu un discours très dur, il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, depuis le Brexit, il y a eu une forme de, j'ai du mal à dire, libération de la parole, xénophobe, raciste dans ce pays, qui n'a pas été remis dans sa boîte avec une clé. On continue en Grande-Bretagne à avoir des propos extrêmement durs vis-à-vis des populations étrangères, vis-à-vis de ceux qui travaillent en Grande-Bretagne. La première responsable européenne à avoir rendu visite à Trump, c'est Theresa May. Donc elle est vraiment du côté obscur de l'Europe, pour le moins, aujourd'hui, Theresa May. Si c'est simplement pour apparaître avec Theresa May, c'est pas une très belle image pour l'Europe. Si c'est pour lui dire, moi, si je suis président de la République française, ce sera pas, vous gagnerez pas le beurre, l'argent du beurre et le sourire du fromager français, mais si vous voulez pas la solidarité européenne, si vous voulez pas la libre circulation des Européens, si vous voulez simplement de l'argent et du libre-échange, ce sera sans la France, s'il est allé lui dire ça, c'est bien.
À nouveau, vous ne mettez pas en doute qu'il ait pu dire ça. C'est un Européen convaincu, Macron.
Écoutez, j'en sais rien si c'est un Européen convaincu. Moi, je l'ai vu ministre de l'économie. Je n'ai pas vu Emmanuel Macron dire aux Allemands ou conseiller François Hollande. Il était à l'Élysée pendant longtemps. Donc, il a été de ces co-auteurs du quinquennat qui ont été un échec absolu sur la scène européenne. La France de François Hollande, et la France qui s'est désinvestie de manière extraordinaire du paysage européen. Et c'est ce gouvernement, jamais un gouvernement français n'a été aussi éloigné des affaires européennes. Même Sarkozy, que j'ai beaucoup critiqué, s'investissait dans le champ européen. Avec François Hollande, ça a été des commémorations. Il n'a pas bougé d'un iota la politique d'Angela Merkel sur l'austérité. Il n'a pas été le partenaire d'Angela Merkel sur les réfugiés. Et Emmanuel Macron était à l'Élysée ou au ministère de l'économie. Donc si c'est pour juste dire comme Jean-Claude Juncker, comme le faisait Barroso avant, l'Europe, mais pour faire continuer à faire de l'Europe une petite mondialisation libérale, technocratique, austéritaire, qui est d'abord au service du big business plutôt qu'au service des citoyens, franchement, c'est la continuité qui construit des Brexit, qui construit des Trump. D'ailleurs, Emmanuel Macron est pour le CETA, il est pour le TAFTA, il est pour
celui...
Oui, ben, je regrette parce qu'elle a quand même dit beaucoup de sottises sur le CETA ces derniers jours. Oui, quand même, une ministre française de l'Environnement qui dit « cet accord qui a été signé, si on l'interprète et si on le change de telle et telle manière, il sera bon pour le climat ». Enfin, il faut quand même savoir qu'un accord qu'on a ratifié, on n'en change pas à une virgule. Donc on est sur des... Bon, et donc si Emmanuel Macron, il est porteur de cette Europe qui fait du transfert de souveraineté démocratique vers le big business plutôt que de faire de l'Europe un vecteur de régulation de la mondialisation, droits humains, droits sociaux, droits environnementaux, au-dessus des droits du commerce et des investisseurs. S'il est ce Emmanuel Macron du vieux monde, eh ben, c'est pas une bonne idée pour l'Europe ni pour nous.
On entend votre critique contre Macron. Est-ce qu'elle est d'autant plus grande, cette critique, que c'est lui qui semble tirer eh bien, les marrons de votre désunion à gauche entre
rien,
Mélenchon,
Hamon
et vous-même?
Je l'ai dit à la fois, je veux construire la grande aventure écologique, sociale, européenne. Je ne vois pas aujourd'hui Emmanuel Macron dans cette aventure-là. En revanche, moi, je trouve que c'est un personnage qui arrive sur la scène politique. Tant mieux, franchement, ceux qui sont là depuis 40 ans, on en a un peu ras-le-bol, vous et moi. Donc, au moins, lui, il dit « je suis libéral », il vient sur la scène politique, il est nouveau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, discutons projet contre projet. Moi, je crois que l'équation gagnante de cette élection présidentielle, c'est le renouvellement des idées, écolo, social, Europe, le renouvellement des pratiques, déborder les appareils politiques, le renouvellement des personnes. C'est ça, l'équation gagnante. Quand je vois Emmanuel Macron, c'est une dynamique très intéressante dans sa construction, incontestablement, mais c'est autour de sa personne plus que d'un projet clair et cohérent.
Macron qui continue en tout cas sa course en tête, en tout cas dans le trio de tête selon les sondages pour la présidentielle, derrière Marine Le Pen à quasi égalité avec François Fillon, peut-être un léger flottement dû peut-être à sa déclaration controversée sur la colonisation. C'était il y a quelques jours en Algérie, on l'écoute.
La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
Voilà, la colonisation, un crime contre l'humanité, quel est votre sentiment? Est-ce que vous partagez, est-ce que vous criez à la faute politique comme
non,
un certain nombre de gens de gauche?
Il y a un débat juridique sur ce qu'est un crime contre l'humanité, évidemment, mais dans l'expression, et d'ailleurs il l'a transformé après crime contre l'humain, je suis d'accord avec ça. Les 50 premières années de la colonisation en Algérie, la population a été réduite par deux, il y a eu des atrocités absolues, on a tué volontairement des femmes, des hommes, des enfants, et donc c'est un crime contre l'humain, donc c'est bien de le rappeler.
Vous auriez pu tenir les mêmes propos dans le même cas.
Oui, mais j'aurais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'après, j'aurais pas passé une semaine à m'excuser d'avoir tenu ces propos-là. Donc je pense que
Même certains à gauche sont mal à l'aise, aussi.
Mais certains à gauche sont mal à l'aise, mais il faut savoir que nous devons absolument regarder notre passé en face. C'est pas simplement être clair vis-à-vis de notre histoire. Notre histoire, elle est puissante, elle est forte, mais il y a aussi des pans obscurs qui sont terribles et nous devons les regarder. Mais pourquoi aussi il faut les regarder? Parce que ce débat, il est toujours latent dans la société française. Pour une partie des jeunes à qui on propose, avec ce gouvernement, on envoie les signaux de la déchéance de nationalité. Vous avez Marine Le Pen, vous avez François Fillon, tout... Une bonne partie des responsables politiques continuent à penser que les Français issus de l'Algérie, de la première, deuxième, troisième, quatrième génération, peu importe, sont issus de cette guerre qu'on a perdue et qu'ils ne sont pas totalement et légitimement Français, qu'ils doivent être réduits soit à leur religion, soit à leur passé et à ce passé-là. Donc, purger cette histoire-là, en assumant la réalité de l'histoire,
on l'assume comment
important.
On s'excuse, on présente des regrets.
Bien
c'est
sûr.
Quoi la meilleure formule? Parce qu'il y a les deux écoles.
Il faut s'excuser de ce qui a été fait. Moi, j'ai rien fait en Algérie.
La France voit.
Mais au nom de l'État français. Oui. C'est l'État français qui, à un moment, a fait ça. Moi, je ne suis pas coupable des crimes qui ont été perpétrés
non, France,
en Algérie. Non, mais c'est important, sur la question de la culpabilisation, c'est important d'expliquer qui est coupable. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les pieds noirs qui, bien souvent, ceux qui sont là, étaient des ouvriers, des artisans, n'étaient pas ceux qui ont fait les atrocités, notamment pendant les premières décennies de la colonisation ou pendant la guerre. La question n'est pas... les personnes qui devaient être jugées potentiellement ont été jugées. La question est de dire la France, à ce moment-là, a fait des crimes qui sont des crimes humains, qui sont des crimes de guerre, qui sont des crimes abominables. Et la France, au nom de la France, moi, président de la République, au nom de la France, je présente mes excuses au peuple algérien. Mais il n'y a pas que les Algériens. Hein. Les Camerounais, les Malgaches, les Indochinois... c'est quand même des millions...
Ça va faire beaucoup d'excuses.
Oui, mais c'est notre histoire. On a, à ce moment-là, on a massacré des gens au Cameroun. On a massacré des gens à Madagascar. On a massacré des gens en Indochine, simplement parce qu'ils étaient Indochinois, Malgaches ou Camerounais, et qu'à un moment donné, ils prétendaient défendre des libertés que nous mettions sur le fronton de nos mairies et de nos écoles. Et donc, présenter ces excuses, c'est justement construire le futur. C'est purger l'histoire pour construire le futur. Moi, j'ai vécu et travaillé en Afrique, j'ai vécu et travaillé en Asie. Je pense que un des grands horizons de la France, c'est l'Europe, mais c'est aussi l'Afrique. Ce pays regorge d'énergie vitale extraordinaire. Et que souvent les images qui sont de ce continent sont des images soit des dictatures avec lesquelles la France reste complaisante, il n'y a qu'à regarder Ali Bongo, ou des drames, des famines. Ce continent regorge aussi d'une incroyable jeunesse, d'incroyables énergies vitales, et nous devons, en toute franchise, assumer l'histoire, et nous devons, par intérêt partagé, y compris du point de vue de l'humanité, de la civilisation, nous devons construire le futur avec ce continent.
Alors on va en revenir rapidement à la politique française. François Fillon, il est toujours empêtré dans ses affaires. On a beaucoup parlé des emplois de sa femme, de ses enfants et de sa société de conseil. Est-ce que vous avez quand même encore des doutes quant aux activités, notamment de conseil, de François Fillon?
Est-ce que vous considérez normal qu'un candidat à l'élection présidentielle qui veut diriger ce pays a déposé 8 jours avant l'interdiction formelle les statuts d'une société de conseil? Parce qu'une fois qu'il était député, vous n'avez pas le droit de construire et de faire du conseil. Il a fait ça 8 jours, sa société 2F Conseil, 8 jours avant d'être député.
Le déontologue de l'Assemblée nationale a dit aujourd'hui qu'il n'y avait aucun problème, ni légal, ni moral.
Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème légal, puisqu'il, comme sur les emplois fictifs, d'une certaine façon, il respecte la loi. Mais est-ce qu'il respecte l'esprit de la loi? Est-ce qu'il respecte l'esprit de l'éthique et l'esprit de la moralité en politique? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, François Fillon s'allie par ses comportements et par le discours qu'il avait tenu et une réalité qui est à l'opposé du discours qu'il a tenu. Il s'allie l'ensemble de la classe politique. Et regardez Marine Le Pen, qui est aussi embourbée que lui dans les détournements de fonds publics, dans les emplois fictifs. Marine Le Pen récolte les effets de ces comportements-là.
Mais donc, elle n'en paye pas le prix dans les sondages, visiblement.
Mais c'est ce que je dis. Elle en récolte les bénéfices.
Oui,
alors
elle
qu'elle est aussi embourbée là-dedans. Et c'est ce truc où, pour une partie de la société française, ils considèrent que tous les responsables politiques sont là pour se goinfrer sur leur dos, sont là pour se goinfrer d'argent public, parce que même celui qui a gagné la primaire de droite autour de la probité, autour du type droit dans ses bottes, tenant d'une morale qui lui-même il affichait chrétienne et catholique, en fait, on s'est aperçu qu'il a quand même assez largement servi dans les caisses de l'argent public.
Il s'est disqualifié avec
Bien sûr.
Moralement, éthiquement,
je dis, il contamine toute la classe politique. Et c'est Marine Le Pen qui
contamine la classe politique, c'est ça.
Mais bien sûr, parce que pour les Françaises et les Français, il y a le côté tous pourris. Ce type, il est pris la main dans le sac, il dit, si je suis mis en examen, jamais je me présenterai. Ah, la perspective d'être mis en examen. Eh bien, finalement, le seul suffrage universel me jugera. Bon, tout ça, c'est quand même assez terrible. C'est assez terrible pour la classe politique, c'est assez terrible pour la droite, je trouve. On a besoin d'une droite éthique dans notre pays, c'est ça la démocratie. On a eu la droite de Nicolas Sarkozy, avec pas mal d'affaires aussi, mais plus côté bling-bling. Et là, on a une droite qui met l'argent sous le matelas, mais aussi peu morale, aussi peu éthique. C'est dangereux pour la démocratie, sérieusement.
On va m'inquiète beaucoup. On va regarder quelques images de Marine Le Pen. On en parlait au Liban.
Après Fillon Le Pen, voilà. Waouh.
Et après Macron à Londres, Le Pen à Beyrouth. Donc regardez ces images, on la voit être reçue par le président de la République libanaise, Michel Aoun. Elle a aussi été reçue par le Premier ministre Saad Hariri. C'est la première fois que Marine Le Pen est reçue par un président et un chef de gouvernement en exercice.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
C'est
la responsabilité de Michel Aoun de recevoir une personne qui a régulièrement des propos xénophobes, racistes, qui veut construire le repli identitaire de notre pays. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec Trump. Ce serait exactement la même chose avec Marine Le Pen. C'est des scandales tous les jours, c'est des mensonges tous les jours, c'est l'incapacité à gouverner. Et à la fin, ce sont les personnes aujourd'hui qui, par colère, votent Marine Le Pen parce qu'ils se sentent abandonnés socialement, qu'ils n'ont plus de services publics, qu'ils n'ont plus parfois accès à la santé. C'est ces personnes qui en seront les premières victimes. Donc il est urgent, et ça renvoie au premier débat que nous avons eu, il est urgent plutôt de recréer de l'espérance dans notre pays, de défendre l'ouverture de notre société, de défendre les différences, mais en répondant de manière très concrète aux difficultés de la vie quotidienne.
Mais ça vous choque qu'un président... Michel Aoun, ok, est un président...
Michel Aoun a quand même un passé au Liban qui n'est pas que sérénité, paix et pétales de rose, quand même. Hein. L'histoire du Liban est une histoire terriblement difficile. Il y a quand même eu... moi, je regrette, encore une fois, le Liban, Michel Aoun a été élu dans une société, encore une fois, terriblement fracturée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je regrette qu'il la reçoive, mais c'est sa responsabilité.
Plus largement, loin du Liban compliqué, comment vous expliquez que les affaires glissent sur Marine Le Pen comme de l'eau sur les plumes d'un canard, qu'on parle plus de l'affaire Fillon que des affaires d'emploi fictif de Marine Le Pen ?
C'est vrai. J'ai même l'impression que probablement ses électeurs, ils sont contents qu'elle détourne l'argent de l'Europe en se disant « c'est autant qu'on récupère ». Je trouve ça, encore une fois, je trouve ça dramatique.
Est-ce que c'est également de votre responsabilité ? On a l'impression que vous passez plus de temps à négocier, par exemple, avec Mélenchon, avec Hamon.
Au niveau européen, on essaye vraiment de faire le boulot.
Au niveau européen ?
Vous savez...
Sur la scène nationale en ce moment, dans le cadre de cette présidentielle, est-ce qu'elle n'est pas un peu oubliée par tous ses autres opposants ? On la voit monter dans les sondages.
Non, elle n'est pas...
Tout le monde s'entretue les uns les autres,
oui, vous avez raison.
Elle n'est pas au centre de la cible.
Vous avez raison, mais je crois que notre responsabilité... Vous savez... Marine Le Pen sont les fachos qui sont là de nouveau, je pense que ça ne marche plus, la réalité.
Personne ne vous demande de dire ça.
Ça peut parfois, à un moment donné, remobiliser un peu votre électorat quand il s'agit de voter contre, mais ça ne marche plus. Disqualifier les propositions totalement dingues de Marine Le Pen, pour une bonne partie des citoyennes et des citoyens, ça ne marche plus parce qu'ils disent « Ok, ces propositions, elles sont dingues, mais vous... » Là, les gouvernements successifs, vous avez fait quoi pour moi ? Donc, ça, c'est dingue, mais vous, je sais que vous n'avez rien fait. Donc, la seule façon de combattre Marine Le Pen, ça n'est pas de tenter de la disqualifier, c'est de dire, j'ai un projet qui, moi, est concret. J'ai un projet qui va recréer de l'emploi à côté de chez vous, qui va vous garantir les services publics, qui va vous garantir l'accès à la santé pour vous et vos enfants, qui va faire que vos écoles ne soient pas des écoles dortoirs, mais des écoles où vos enfants deviendront citoyens et des éclairés avec un boulot. Nous devons répondre au renoncement et la colère qu'incarne Marine Le Pen, pas de l'espérance et des solutions concrètes.
Je ne
vois pas d'alternative à ça.
Elle peut gagner.
On ne sait pas ce que sera la situation politique. Vous reconnaissez que c'est un bazar absolu.
La seule chose qui n'est pas un bazar, c'est qu'elle est en tête dans les sondages, largement et de plus en plus largement.
Vous avez raison, je ne crois pas qu'elle puisse gagner. Au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle puisse gagner parce que il y a quand même encore dans notre société un refus de cette solution-là, qui reste majoritaire, je le crois, aujourd'hui. Après, si les affaires continuent à pleuvoir sur la politique française, si, je ne sais pas ce qui peut se passer, enfin, on est quand même sous la menace terroriste et tout ça, et on sait à quel point elle danse sur les attentats terroristes et sur les victimes
et
des
sur
attentats
la,
terroristes.
Et sur la division de la gauche. Si et il y sur a la, plusieurs candidats.
Mais
à
vous
gauche.
Avez raison. Une raison de plus pour tenter la grande aventure. Je crois qu'il y a les candidats de l'immobilisme aujourd'hui. C'est ceux qui poursuivent ce qui est fait depuis des années. C'est d'une certaine façon Fillon. C'est aussi d'une certaine façon, je crois, Macron, en tout cas tant qu'il n'a pas mieux clarifié son projet. Il y a l'option du repli identitaire, de la haine et de la xénophobie. Et puis il y a l'option de l'espérance, qui est celle que je veux construire avec toute une partie de la gauche qui se ressent aujourd'hui écologiste, sociale, européenne, démocratique. C'est pour ça qu'il y a une urgence. Notre pays peut basculer vers le pire, mais aussi vers le meilleur, vers cette société qui, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les associations, dans certaines institutions, construisent déjà aujourd'hui le monde de demain, sont l'espoir et font bouger la société de manière absolument magnifique. Je veux être avec eux.
Merci beaucoup, merci. Yannick Jadot, merci Véronique Rigolet, merci à vous d'avoir regardé cette émission de Mardi Politique.